Une nuit noire ou de pleine lune, une nuit blanche du soir au matin, mais c'est sans compter avec le confinement, le couvre-feu qui crée une nuit numérique à la lumière bleue des écrans, ou une nuit en plein jour pour essayer d'imaginer des lendemains lumineux.
Pascal Paradou.
Et nous voilà sur les starting blocks pour la Nuit des idées qui se déroulera en France, mais aussi un peu partout dans le monde, ce jeudi 28 janvier, grâce à l'Institut français, mais aussi à RFI, qui ce soir-là vous emmènera pendant toute la soirée au Collège de France. Pendant 3 heures, vous serez au cœur du Quartier Latin, sur les bancs de cette prestigieuse institution, les auditeurs privilégiés de cette Nuit des idées. Bonjour Vincent Manot.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du pôle idées et savoirs de l'Institut français, et donc le grand organisateur de cette nuit, qui d'année en année connaît, me semble-t-il, de plus en plus de succès. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que je suis sensible à la communication de l'Institut français, ou est-ce que c'est une réalité?
Non, c'est une réalité, clairement. C'est une manifestation qui est en effet bien installée dans le paysage aujourd'hui. Elle avait commencé donc il y a quelques années de cela, uniquement au Quai d'Orsay, puisqu'elle s'était déroulée à l'initiative donc du ministre des Affaires étrangères d'alors, Laurent Fabius, à l'hôtel du ministre, où elle avait accueilli plusieurs milliers de personnes, et elle s'est aujourd'hui considérablement internationalisée, puisque cette année, nous avons dépassé le nombre de 100 pays participants, 103 au dernier comptage. Et donc, c'est une manifestation, en effet, qui connaît du succès et qui connaît l'intérêt de l'ensemble de nos publics en France et à l'international.
Alors, c'est la 6e édition. Vous dites 103 pays participent à cette Nuit des idées, mais il y a aussi beaucoup d'institutions françaises qui participent. Combien d'événements cela fait? On pense dans combien d'endroits ce jeudi 28 janvier?
Dans un peu plus de 220 événements se dérouleront cette année en France et à l'international.
Oui, c'est donc assez énorme. Dans une année un peu particulière, puisque on sait tous ce que l'on vit au quotidien, c'est l'année de la pandémie. Est-ce que ça a brouillé un peu le message, l'organisation de cette Nuit des idées?
Oui, assez considérablement. On a pris la décision cet été, dans la mesure où il était quand même assez difficile de se projeter sur quelque chose de très clair à la fin du mois de janvier en termes de capacité d'organisation de Nuit des idées en présentiel, susceptible d'accueillir du public, de prendre un peu les contraintes qui nous étaient imposées par la pandémie pour les tourner en force, et donc de proposer une Nuit des idées qui va être massivement numérique. Donc cette année, c'est la grande nouveauté de cette édition. Nous aurons donc un dispositif qui va être mis en place, un dispositif live, qui donc sera diffusé sur les réseaux sociaux, sur le site de la Nuit des idées, et une grande émission donc qui commencera donc à 9h du matin aux îles Fidji et en Australie, et qui se déroulera pendant 24 heures jusqu'à la Californie en traversant les fuseaux horaires.
Donc ça veut dire 24 heures de nuit et d'idées.
24 heures de nuit, puisqu'il sera, il fera nuit toujours pour les débats. C'est le principe de suivre les fuseaux horaires. Et puis 24 heures d'idées avec tout un ensemble de formats. Ça sera en effet une grande manifestation, démonstration de la vitalité du débat d'idées contemporain, de la pluralité de ces formats aussi, puisqu'on a parfois tendance à opposer les débats d'idées tels qu'ils peuvent se pratiquer dans des salles, pour des publics initiés, et puis la jungle des réseaux sociaux. Là, on aura du son et aussi de l'image, avec des déambulations urbaines, avec des dialogues qui se dérouleront dans un taxi, dans un bus, dans un téléphérique, sur un bateau, et qui donc permettront d'avoir des prises de parole très ancrées à un territoire, à un paysage, à des réalités locales, à des préoccupations dans chacun des pays qui participent à cette
émission.
Mais
rien en présentiel, si, il y a quelques événements qui se déroulent en présentiel.
Dans les quelques pays un peu épargnés par la pandémie, on aura des Nuits des idées en présentiel. On aura aussi quelques manifestations en France qui se dérouleront en présentiel. Mais il est vrai que, comme on pouvait s'y attendre, avec les menaces en plus qui planent de plus en plus cette semaine même sur le confinement, le fait de pouvoir avoir des solutions plutôt hybrides avec un mélange de présentiel et de distanciel est la solution qui a été la plus retenue par les différents organisateurs.
Alors, vous le rappeliez, Vincent Manot, il y a 6 ans, pour la première Nuit des Idées, c'était au Quai d'Orsay, et depuis l'origine, c'est l'Institut français qui porte cet événement, l'Institut qui est un peu le bras armé en matière de culture du ministère des Affaires étrangères, même s'il y a une tutelle ministère de la Culture, avec donc cette volonté d'en faire un événement international, 103 pays, vous l'avez rappelé. Est-ce que c'est cela qu'on appelle le soft power en français dans le texte?
C'est ça. C'est en effet un peu de ça. Alors, on appelle soft power du côté anglo-saxon. En fait, on est dans un véritable exercice de diplomatie d'influence. On fait du débat d'idées pour différents types de raisons. On fait du débat d'idées parce que c'est un objectif en soi, parce que promouvoir le débat d'idées à l'international, c'est promouvoir la liberté d'expression, c'est aussi de promouvoir des échanges, la circulation des idées et des savoirs. Mais on le fait aussi dans un exercice de diplomatie d'influence, qui est d'utiliser le débat d'idées pour mettre en place des coopérations entre des acteurs académiques, entre des acteurs institutionnels, entre des représentants de la société civile et évidemment entre des acteurs culturels.
Alors chaque année, il y a un thème à ces rencontres et à cette Nuit des Idées. L'an dernier, c'était « Être vivant ». Ça pourrait valoir pour toutes les années d'ailleurs. Mais cette année, c'est un autre thème, c'est « Proche ». Avec un S.
C'est ça, proche au pluriel. Alors, peut-être faut-il préciser que c'est donc une thématique qui a été définie au cœur du premier confinement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, fleurissaient beaucoup de discours sur le monde d'après. Nous, on avait pas mal de difficultés à se projeter déjà sur janvier 2021. Donc, on a décidé donc de choisir ce thème proche à la fois pour autoriser des débats, évidemment, sur la crise sanitaire, sur la manière dont sur ses conséquences économiques et sociales, évidemment, dont il apparaissait déjà qu'elle serait durable au mois de mars, mais également pour prendre un petit peu de recul également sur ce que nous vivons et donc autoriser des échanges sur des grands enjeux du monde contemporain vis-à-vis desquels la crise a plutôt joué un rôle d'amplificateur ou d'accélérateur de tendances de long terme. Donc ce que vous retrouverez dans le cadre de cette Nuit des Idées à travers ce thème proche, c'est des débats qui vont porter notamment sur nos rapports à l'espace, rapports collectifs à l'espace, avec la remise en question des flux qui caractérisent la globalisation, flux de biens ou de personnes, mais aussi nos rapports plus personnels, plus intimes à l'espace, la manière dont la crise s'est invitée dans nos appartements, dans nos maisons, dans nos relations amicales, dans nos relations avec nos proches, avec nos amis. Et donc jusque dans notre intimité.
Alors on va décliner ce thème notamment avec William Marx, qui occupe la chaire de littérature comparée au Collège de France. Il sera avec nous tout à l'heure. Mais d'abord allons ailleurs pour voir comment on pense ce thème de la proximité en Côte d'Ivoire. Bonjour Yacouba Konaté.
Bonjour monsieur.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, mais aussi critique d'art et un des responsables du musée des cultures contemporaines Adama Tungara, tout nouveau musée qui a ouvert en mars 2020, donc juste avant la pandémie de Covid. Et c'est là que va se passer la Nuit des Idées à Abidjan.
Oui, effectivement. Pour nous, c'est un honneur. En ce sens que ce musée n'est pas juste un lieu d'exposition de tableaux, mais c'est un espace de rencontre, de discussion, de débat. C'est une bibliothèque, c'est une médiathèque, c'est un centre de formation ouvert aux enfants. Et nous pensons que ce musée a besoin également d'aider à changer le logiciel des Abidjanais et des Ivoiriens en général par rapport à la cité d'Abobo, qui, comme vous le savez, est l'une des plus populaires et des plus peuplées de tout Abidjan. Et nous sommes engagés dans cette recherche, dans ce travail, qui passe par une sortie de la logique du musée colonial et par une expérimentation de nouveaux modes de monstration, des expérimentations scénographiques, de manière à ce que nous apprenons à raconter l'histoire de notre art du point de vue intérieur.
Alors, qu'allez-vous proposer pour cette nuit des idées dans ce nouveau musée des cultures contemporaines? Est-ce que la thématique proche résonne avec le lieu et la question coloniale que vous évoquiez?
Absolument, parce que ce qui va y être organisé, c'est un débat sur décoloniser les arts. Alors, c'est un débat où il y aura plusieurs intervenants, des artistes, des historiens, et nous, ça résonne avec notre espace dans la mesure où ce lieu est tout neuf et il est propice pour l'invention, la production de nouveaux rapports avec les publics, avec les objets, et évidemment, nous recherchons des interférences pour que ça devienne un espace public.
Donc proche, vous l'entendez, comme proche du public, proche de votre culture africaine.
Effectivement, et proche aussi de la jeunesse, parce que les populations ne rentrent pas volontiers, ne franchissent pas volontiers le pas d'un musée ou d'une galerie. Ils pensent que c'est des objets, c'est des espaces qui ne sont pas faits pour eux. Et donc nous, le travail que nous faisons, c'est vraiment une sorte d'ouverture constante des portes. Nous allons les inviter, nous mobilisons les associations, les jeunes, pour qu'ils viennent voir et pour qu'ils intègrent progressivement l'idée que le musée, c'est un espace public qui leur appartient.
Et c'est un espace où l'on voit, mais où l'on pense aussi.
Où l'on pense et où l'on apprend aussi. On apprend où l'on apprend des savoir-faire, où on fait des rencontres, et puis où on peut accueillir aussi les projets qui viennent de la communauté.
Merci beaucoup, Yacouba Konaté. Et rendez-vous donc au Musée des Cultures Contemporaines Adama Tungara, qui est donc dans ce quartier, vous le disiez, très populaire d'Abobo. J'ai hâte de venir vous voir un de ces jours, peut-être.
Oui, on vous attend.
Na 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 na, ooh yeah, ooh yeah, eh. Jumbe na la la le ye, igani tano figi numo. Ale mana mana kuma le fe, anjigi ye halale ye. Niga dem sani ye mangro subona, c'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. A hausse à le Mr. BBP, yeah. L'artiste du peuple. Wow, yeah. Le virus de la musique en moi depuis tout petit. Papa au son de sa guitare et les chants de maman qui berçaient mes nuits. Plus tard je deviens arrangeur, incontournable dans le milieu. Tout ce que je touche devient un hit. Oh, 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 oh. La cité épousée, moi je n'ai rien forcé. La musique m'a épousé. Elle et moi on forme une seule personne. Moi je ne suis pas la mode, je ne suis pas les gens, je ne suis pas les tendances. Mais je crée le premier, les autres copient, c'est ça la différence. Jambana la 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 ye, Iganita na fliye nouma.
Ali bana mana kuma le fe, Anjigi ala le ye. Nikade mi se ni ye mongo subona, c'est qui porte
le drapeau.
Baby Philippe sur RFI, la vraie force, histoire de rester encore un peu à Abidjan avec cette icône du coupé décalé, un extrait de son nouvel album On The Track. Vincent Manot, la Côte d'Ivoire n'est pas la seule capitale africaine à organiser sa nuit des idées avec finalement des thématiques qui sont propres à chaque pays mais aussi à chaque organisateur.
Oui, il y aura beaucoup de Nuit des idées, comme souvent dans les pays africains. Un peu plus d'une vingtaine participent à cette édition, avec des thématiques qui sont diverses. J'évoquais tout à l'heure la question donc des rapports à l'espace, la question en réalité de la transformation de nos modes de vie, de la transformation des villes sera au cœur de nombreuses Nuits des idées en Afrique, la manière dont se mettent en place des villes plus durables, des villes plus vivables pour les citoyens sera au cœur de nombreuses Nuits des idées. Et puis évidemment, à travers ce thème proche, il y a la question des nombreuses vulnérabilités auxquelles nous sommes exposés, par conséquent donc les solidarités qui se mettent en place ici et là pour faire face à la crise. Et de ce point de vue, on aura également plusieurs Nuits des idées qui en Afrique porteront justement sur ces engagements des citoyens, des citadins. On aura par exemple dans le cadre du live une maraude du SAMU social dans les rues de Libreville qui permettra d'aller à la rencontre de personnes en difficulté et de certains engagements de représentants de la société civile.
Alors, on ne va pas faire la liste des rencontres, débats, tables rondes, performances ou prises de parole, mais il y a quand même un lieu, une institution à laquelle nous allons nous intéresser particulièrement, c'est le Collège de France. Bonjour William Marx.
Bonjour Pascal Paradou.
Vous occupez la chaire de littérature comparée donc au Collège de France. Alors, on vous retrouvera ce jeudi sur les antennes de RFI pour cette soirée spéciale que j'évoquais tout à l'heure. Mais il me semble qu'il y avait une évidence que le Collège soit associé à cette Nuit des idées. C'est d'ailleurs pas la première fois.
Non, ce n'est pas la première fois. Effectivement, l'an dernier au moins déjà, le Collège de France s'était activement associé à cette Nuit des idées, mais c'était en présentiel. Et je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui a à voir avec l'ADN du Collège, sa vocation même. Je rappelle que le Collège de France a été fondé en 1530 par le roi François Ier. Et c'était pour y introduire des langues étrangères qui n'étaient pas enseignées ailleurs à l'université, comme le grec et comme l'hébreu. Et le Collège de France a vraiment été le lieu d'accueil des cultures, des langues, des littératures étrangères. On y a enseigné l'arabe, les langues orientales très tôt, alors que ce n'était pas possible encore dans les autres institutions universitaires. Et donc cette question de l'ouverture à l'autre, effectivement, fait que le Collège de France se sent particulièrement interpellé par la thématique actuelle de la Nuit des idées, à savoir proche. Et puis, le Collège de France est un lieu de recherche. On y enseigne la recherche en train de se faire. C'est un incubateur d'idées. Et donc, la Nuit des idées, précisément, elles incubent au Collège de France, même la nuit. Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir cette Nuit des idées chez nous.
Et puis, c'est toutes les nuits, 365 nuits par an, c'est pas juste le 28 janvier. Mais pour vous, William Marx, qui avait enseigné sur plusieurs continents, qui travaillait justement à tisser des liens entre les littératures du monde, comment vous pensez la proximité qui est le thème de cette Nuit des idées ?
Je dirais qu'on est là quasiment au centre, au cœur de mon travail. Il y a un an, je donnais ma leçon inaugurale qui s'intitulait « Vivre dans la bibliothèque du monde ». C'est-à-dire que nous sommes en fait au cœur d'un ensemble de textes, de littérature, de culture qui nous viennent de partout et dont peut-être parfois nous n'avons pas conscience. Et donc l'objet de ma recherche en tant que spécialiste de littérature comparée, comparatiste, comme on dit dans les termes plus technique, c'est vraiment de considérer qu'aucune littérature n'est une île. Toutes les cultures sont plus ou moins interconnectées. Et ce sont ces interconnexions, cette humanité en fait, qui transparaît à travers la diversité des cultures, que j'essaie d'étudier sur cette chaire de littérature comparée.
Alors donc, en effet,
c'est la raison sans doute. Oui.
Oui, non, allez-y. On est en duplex. Hein, je donne une information aux auditeurs.
Voilà. C'est la raison sans doute pour laquelle je me suis particulièrement impliqué dans l'organisation de cette Nuit des idées au Collège, ainsi qu'avec ma collègue Françoise Combes, qui elle est professeure d'astrophysique, astrophysicienne, et du reste par ailleurs, qui a obtenu cette année la médaille d'or du CNRS, ce qui n'est pas peu de choses. Et Françoise Combes, elle est spécialiste, alors non pas de cette bibliothèque du monde, mais elle est spécialiste de l'univers lui-même, c'est-à-dire de ses distances énorme jusqu'aux confins même du cosmos. Et donc à nous deux, Françoise Combes et moi-même, nous avons essayé de concocter une nuit des idées made in Collège de France, si je puis utiliser cet anglicisme, alors même que cette nuit des idées est organisée par l'Institut français.
C'est bien parce que c'est vous, sinon je ne l'aurais pas toléré. Comment appréhender le thème choisi cette année? On vous a entendu, William Marx. Je vous propose d'écouter maintenant le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, dont le travail porte justement sur ces questions de l'universel et du mélange, ce qu'il appelle la mutualité. Souleymane Bachir Diagne, joint par téléphone par Cécile Lavolo.
D'une certaine manière, on peut dire que la pandémie nous rapproche, parce que la pandémie nous découvre notre vulnérabilité. À travers cette vulnérabilité, nous découvrons notre condition humaine commune. Donc, disons que la pandémie, paradoxalement, alors qu'elle nous oblige à nous écarter les uns des autres, nous rapproche dans cette vulnérabilité commune dont nous avons pris conscience plus que jamais et qui est également la vulnérabilité de notre planète.
Et justement, votre philosophie est souvent décrite comme une philosophie de mutualité, une philosophie universaliste. Est-ce que les ralentissements des échanges entre les pays risquent de mettre à mal cette manière de faire de la philosophie ?
Je le crains. Il faut effectivement être réaliste et se rendre compte qu'on ne voyage plus, on ne se rencontre plus en vrai. Et par conséquent, cette mutualité a pris un coup dans l'aile. Mais encore une fois, la pandémie nous oblige à ce mode de vie absolument inouï et sans précédent, et aussi d'une certaine manière ce qui renforce les liens spirituels que nous entretenons les uns avec les autres.
Et vous, vous avez l'habitude de vivre entre trois pays, le Sénégal, la France, les États-Unis. Comment vous vivez cette période ?
Je la vis relativement mal de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que je viens de calculer, c'est la première fois depuis l'âge de 17 ans que je reste aussi longtemps dans un seul pays sans bouger, sans aller dans un de mes trois pays que sont les États-Unis, la France et le Sénégal. Et donc, c'est très difficile à vivre. Heureusement que nous avons les technologies de la communication et même des Zooms, puisque même mon enseignement, je le fais par Zoom.
Souleymane Bachir Diagne, qui sera jeudi prochain à New York en dialogue avec Barbara Cassin. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de circulation, Vincent Manot, entre intellectuels, entre participants de cette nuit des idées ?
Problème de circulation physique, vous voulez dire ?
Oui.
Oui, on a en réalité très peu de circulation de personnes vont avoir lieu dans le cadre de cette nuit des idées. En revanche, du coup, on s'est appuyé beaucoup sur le numérique pour organiser des dialogues transfrontaliers, des dialogues transocéaniques. Donc, vous avez cité celui qui va avoir lieu entre Barbara Cassin et Souleymane Bachir Diagne. Il y en a d'autres qui ont été organisés entre la Grèce et la Turquie, par exemple, entre des sociologues mexicains et américains autour de la notion de frontière. Donc finalement, ces limites à la circulation ont été quand même réduites grâce au format numérique.
William Marx, vous aussi, vous vous êtes converti aux leçons en version numérique au Collège de France. Mais alors finalement, est-ce que ça nous rapproche ou est-ce que ça nous éloigne ?
Il me semble que ce que disait Souleymane Bachir Diagne était très juste, à savoir que l'expérience de l'épidémie, de la pandémie que nous vivons, est une expérience de la mondialisation. C'est-à-dire que jamais, nous avons sans doute été isolés par les différents confinements, isolés les uns des autres, mais en même temps, nos conditions individuelles n'ont jamais été plus semblables les unes aux autres. Et ce qui se passait en France, c'est aussi ce qui se passait en Asie, en Afrique, dans les Amériques. Et donc, on a à la fois le sentiment qu'il y a une, que nous sentons dans notre propre vie, la mondialisation que nous pouvons expérimenter. Donc, nous pouvons sentir le monde à travers ce virus. Et quasiment, ce qui est une autre dans l'aspect intime du vécu du confinement, il m'a semblé que l'isolement a montré que chaque individu vivait un confinement assez semblable, en fait, quels que soient les continents, quels que soient les classes sociales ou les différentes cultures. Et il y a là,
Ah, nous avons un petit problème de ligne avec William Marx. Il n'y a plus de ligne. La ligne a coupé parce que je vous lisais, nous sommes en duplex, donc nous allons le rappeler pour pouvoir continuer la conversation et surtout vous raconter ce qui va se passer jeudi soir à la fois au Collège de France, mais aussi sur les antennes de RFI et puis sur les différents sites en ligne, le site de l'Institut français, le site de RFI, mais aussi les chaînes YouTube, le site du Collège de France, bien évidemment. Vincent Manneau, en attendant que William Marx revienne dans la course et à l'antenne, surtout, il est là. Il est là. Il m'a fallu combler à peine 30 secondes et vous voilà de nouveau, William Marx. Non, il n'est pas là. Si, il est là. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là.
Si, je suis là.
Vous êtes là. Pardon. Oui, les désagréments de l'éloignement et de la proximité et de la technologie. Donc, vous étiez en train de dire qu'on avait vécu à peu près la même chose où que nous soyons dans le monde. Je peux émettre éventuellement quelques réserves, mais c'est vrai que nous avons tous vécu cette pandémie et cet isolement. Mais est-ce que ça ne marque pas aussi les limites de la mondialisation avec ce qu'on pourrait attendre dans ce qu'on appelait à une époque le monde d'après, c'est-à-dire un rétrécissement et un retour à soi, à la nation, etc., etc.
C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, il y a ce danger, ce péril-là, et parfois cette chance aussi, hein, de savoir retrouver ses proches. Effectivement, le moment, nous sommes tout en attente d'une juste proximité avec les gens qui nous sont proches, mais malgré tout, moi, je continuerai à insister sur cette proximité paradoxale que nous avons sentie à travers Zoom. Alors, juste un exemple, c'est-à-dire que au bout du compte, par Zoom, nous n'avions aussi peu de facilité ou autant de difficultés, si pour dire les choses autrement, pour parler à quelqu'un qui habite de l'autre côté à 5 ou 10 kilomètres que pour parler à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du continent. Tout le monde était égalisé en quelque sorte. Alors bien sûr, après cette pandémie, il faudra retrouver un autre type de proximité, mais je pense que cette expérience d'humanité qui a été la nôtre, qui est encore la nôtre, il faut le dire aujourd'hui, restera comme une expérience de solidarité malgré tout. Je voudrais voir ce côté positif.
William Marx, deux mots sur la soirée de jeudi, donc qui se déroulera au Collège de France, donc en présentiel mais sans public, avec une diffusion sur RFI et en image sur la chaîne YouTube de RFI et sur le site du Collège de France. Il y a trois thèmes autour de cette idée de proximité. Allô ? Nous avons encore un petit problème technique. Moi, je ne suis pas tout à fait pour le numérique à tout craint et la limitation du nombre d'invités dans les studios, parce que ça aurait été plus formidable encore d'avoir William Marx avec nous. Je peux juste vous dire qu'il y aura donc trois temps forts dans cette soirée à partir de 20h sur RFI. William Marx est de retour ? William Marx n'est pas de retour. Trois temps forts autour de le prochain, la cartographie et... Y a-t-il une bonne distance ? Et ce seront des tables rondes qui seront animées par mes camarades Caroline Lachowski, Hassan Diop et votre serviteur, avec des dialogues qui peuvent être assez surprenants. Par exemple, William Marx va dialoguer avec Hugues de Thé, qui est titulaire de la chaire d'oncologie cellulaire. Ça va créer des surprises. Est-ce que Vincent Manneau, une nuit des idées, c'est fait pour créer des surprises ?
Oui, c'est créer des surprises, c'est mettre autour de la table des personnes aussi dont on s'attend pas forcément à ce qu'elles se parlent. Ça vaut pour remettre en question les cloisonnements disciplinaires et puis aussi pour faire en sorte que des intellectuels parlent avec d'autres types de personnalités, des représentants de la société civile par exemple. Le Collège de France a en effet imaginé une nuit des idées qui décline merveilleusement bien la thématique qui est proposée cette année. Et résonneront en écho à cette nuit au Collège de France et par rapport aux travaux de William Marx ou de Françoise Combes, de nombreux entretiens avec de grandes personnalités littéraires, par exemple avec Ludmila Ulitskaya ou bien avec Jaili Amadou Amal, et puis avec le spationaute Thomas Pesquet, par exemple, aux États-Unis.
Donc des surprises, des paroles à écouter. Merci beaucoup Vincent Manneau, merci William Marx, et rendez-vous donc jeudi un peu partout dans le monde. Les infos sont sur le site de l'Institut français et plus précisément sur le site lanuitdesidées.com. Merci beaucoup Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin, à demain.